Bonjour et bienvenue à Détour Estival avec Fulgence Blas au micro et Maurice Bolduc à la console. En première partie d'émission, comme tous les mercredis, Stéphane Baudry qui va nous parler de sa chronique, de la chronique bien pleine. Il n'est pas seul aujourd'hui, il est avec sa fille Marianne Baudry qui fait les randonnées avec lui depuis son enfance. C'est pourquoi je lui ai demandé de venir avec papa pour nous parler aussi de ça, son expérience personnelle. Et en deuxième partie, Société d'Histoire des Filles du Roi avec Michel Desfonds. Voilà, restez à l'écoute, on vous revient. Could you be love? Yeah, could you be love? Original Bob Marley, mais c'est du remix de Rick. Merci, on lui doit son crédit à lui. Voilà, on vient de finir la première pièce musicale comme ça tout de suite. Stéphane Baudry est ici en studio avec nous, accompagné de sa fille qui fait aussi les randonnées avec son papa depuis son jeune âge, depuis sa tendre enfance d'ailleurs. C'est pourquoi je lui ai demandé de venir avec son papa pour nous parler de son expérience personnelle à côté de papa, bien sûr. Bonjour Stéphane, bonjour Marianne.
Salut.
Bonjour Fulgence.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci toi.
Voilà, je vais bien, je suis content de t'avoir aujourd'hui avec ta fille qui va nous parler de ses expériences personnelles, de ce que tu lui as transmis, qu'est-ce que tu lui as montré au cours, tu lui as fait découvrir durant les randonnées. Aujourd'hui, vous allez nous parler du parc national du Mont Orford.
Oui,
c'est bien ça. Pourquoi ce choix?
C'est un parc où est-ce qu'on va depuis longtemps. Marianne, la première fois qu'elle est allée, elle avait un an, ça fait 14 ans.
Et
c'est une grande histoire. On est retourné plusieurs fois aussi avec ses frères aussi. Alors, c'est un endroit particulier.
Oui.
Ça fait partie du réseau de la CEPAC,
oui.
Comme le parc du Bic ou Saint-Bruno. Mm-hmm. On parle de 8 sentiers qui varient entre 5,5 et
10. 8 sentiers. Oui, c'est pas mal quand même. Ouais.
Oui. Mm-hmm. Puis c'est ça va entre 5,5 km et 18,7 km. Alors, c'est quand même une belle variété.
Il faut avoir de bons muscles.
Oui.
Il faut avoir de bons muscles. Ouais.
On peut le faire aussi. Il y en a plusieurs qu'on peut faire en vélo.
Non, je ne parle pas des 5 km 5, je parle des 18 km.
Ouais.
Voilà,
ouais.
Ça, c'est vraiment. Voilà. 5 km 5, ça se fait comme ça, quoi.
Mais non, mais c'est
en
ça.
En ville, quand on fait le tour de blocs, quelques ruelles, on fait facilement 5 km. Mais 18 km, alors, il faut être. Voilà, ouais. Allez, je te laisse partir.
On parle aussi de deux belles plages, le lac Stockley puis le lac Fraser.
Oui.
Et c'est vraiment des plages magnifiques. Le lac Stockley, c'est impressionnant à voir. Mm-hmm. Puis il y a aussi un camping qui offre des prêts à camper.
Oui.
Fait que justement, on l'a traversé l'autre fois quand on est allé.
Oui.
Mais c'est vraiment bien. Ça se trouve être au 3321, le chemin du parc à Orford.
Oui.
Et en voiture, je dirais que du pont Champlain, c'est environ 1h, 1h10. Alors, ça se fait très bien. C'est l'autoroute
c'est
tout
pas,
le long.
C'est pas du côté de quand on va à Sherbrooke.
Exactement. On prend la 10,
oui.
On sort à la 118, on prend, puis on se rend, il y a une route, on se dit directement au parc.
Oui, parce que je suis allé plusieurs fois à l'époque, il y a quelques années, plusieurs fois à Sherbrooke, où je voyais toujours la sortie Park of Ford, Park mm-hmm. Mont of Ford et autres, là, ouais. Mais je ne suis jamais allé là.
Ouais.
Je me suis dit, ça va être une prochaine fois, dans une autre vie, pourquoi pas. Alors oui, alors son histoire. Parle-nous un peu de l'histoire de ce parc-là, s'il te plaît.
Mais il a été créé en 1938. C'est une entente intermunicipale où est-ce qu'il s'engageait à céder des terres afin de permettre la constitution du territoire protégé.
Wow.
Puis à l'Expo 67, mais ils ont souligné l'Expo en faisant un terrain de camping et le centre d'art d'Harford. Il y a un camp musical, là, il y a plein de belles choses.
L'Expo
aussi, au niveau
qui se passait ici à Montréal.
Oui. Mais ça a quand même irradié partout au Québec. Il y a eu des initiatives qui se sont faites en même temps.
Oui,
aussi
oui,
par rapport
pas
à
seulement
ça.
À Montréal, mais en région aussi, quoi.
C'est ça.
Oui.
Exactement.
Wow.
Puis en 1976, le gouvernement du Québec a agrandi la surface. Ils ont exproprié des propriétaires pour remettre ça à la population.
Ils ne devaient pas être contents.
J'imagine.
Ouais.
Puis en 1979, c'est devenu officiellement un parc récréatif.
Wow. C'est toute une histoire.
Ouais.
Ouais. Mais cette histoire, parce que c'est pas la première fois que tu nous fais une chronique sur les parcs et puis de cette histoire de le lien avec l'Expo 67. J'ai dit mm-hmm. Ça s'est pas seulement passé à Montréal.
Non.
Les régions aussi en ont profité.
Oui.
Voilà. Alors, c'est intéressant. C'est bien de le savoir.
Ouais.
Oh, ouais, je croyais que c'était un truc que toutes les choses se sont concentrées à Montréal. Alors Marianne, un parc que tu as eu la chance de l'honneur, grâce à ton papa, à la famille, de visiter quand tu avais un an. Et quelques années, une décennie plus tard, tu te retrouves dans ce parc. Comment tu t'es senti là?
Je suis allée un peu avant aussi.
Oui.
Mais il y a des places qu'on passait devant, puis qu'on se retrouvait.
Oui.
Comme on est comme, ça, on était passé là avant et tout.
C'est ça. Il y avait des souvenirs qui revenaient.
Ouais, c'est
quoi.
Ça. Ouais. C'est vraiment beau. Il y a plusieurs points de vue.
Oui.
Alors, ouais.
Et est-ce que quelquefois, tu donnes ton point de vue à papa pour le choix du parc à visiter depuis que tu sais parler?
Ouais. Par exemple, le Mont-Saint-Grégoire, c'est un que j'aime quand même beaucoup.
Oui.
Alors,
tu as dit, papa, on va là, et puis tu as suivi. Ah, tu peux dire non, hein, Stéphane.
Non, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais elle était allée avec sa mère, elle m'a dit que c'était une très belle montagne, alors je l'ai suivie.
Oui.
Ouais.
Ouais. Alors, je vais te revenir plus tard. Je laisse continuer, Stéphane.
Mais comme Marielle a dit, il y a beaucoup de points de vue où est-ce qu'on peut s'arrêter. Alors, disons, si on ne veut pas faire la montagne au complet, on peut quand même arriver à une certaine étape. On a quand même la vue sur le lac, on a la vue sur la région autour. C'est une très belle région. On est dans le coin de Magog, on est en, Alors, ouais. C'est
oui,
bon.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Magog, c'est Magog, c'est avant Sherbrooke. Là.
Oui. Mm. Il y a des sentiers comme l'étang Fer de Lance. Ça, c'est, disons, les gens qui sont moins habitués à faire de la randonnée. Mm. Ils peuvent avoir quand même un très beau paysage, une très belle randonnée. C'est plat,
oui.
Mais ça amène à beaucoup d'endroits. Et il y a le sentier, il y a les crêtes. Ça, c'est un sentier. C'est lui qui est 18,7 km.
Oui.
Nous ne l'avons pas encore fait. Mais
vous préparez pour ça.
Oui, on s'est vraiment dit qu'on
parce que 18,7, c'est bien. 18,7, c'est pas 5,5. Hein? Uh-huh. Voilà, c'est une distance quand même, il faut le dire.
Ouais.
Presque une vingtaine de kilomètres.
Oui. Notre incontournable, à chaque fois qu'on y va, c'est le Mont Chauve. C'est 10,6 kilomètres. C'est une boucle, mais c'est vraiment, vraiment une belle montagne.
Oui, oui, oui.
On a remarqué quand même qu'il était moins chauve qu'il était, parce qu'avant ça, le Mont Chauve, c'est qu'il n'y avait aucun arbre en haut, fait qu'on avait vraiment une vue panoramique tout autour. Là, il commence à avoir de plus en plus d'arbres.
Le nom vient de là,
ouais.
Le Mont Chauve. D'accord. Oui, je te laisse continuer.
Pour les heures d'ouverture, on parle jusqu'au 5 septembre, ce qui est quand même bientôt. C'est 8h à 19h, puis jusqu'à 22h le vendredi, puis 20h le samedi. Puis après ça, jusqu'au 17 octobre, c'est de 9h à 19h. Puis, puis ensuite, je pense, ça tombe à 16h jusqu'en décembre.
Alors, OK, après, c'est fermé.
Ça ferme jamais.
Ça ferme jamais. Même en hiver.
Ouais. Non, c'est ça. C'est seulement que les heures sont raccourcies. Mais on peut aller se promener, faire de la randonnée en plein hiver aussi.
En plein hiver.
Il faut juste être équipé, ouais, avoir des crampons.
Les amoureuses, des sports d'hiver, des randonnées d'hiver, voilà. Mm-hmm. Désolé, hein, les amoureux de d'hiver, là, ne m'en voulez pas. Je ne voulais pas qu'on ferme ce parc-là à cause de...
Il y a aussi le ski, le Mont Harford lui-même.
Il y a des pistes de ski là-bas.
Oui, c'est ça.
Ah ouais, OK, il faut le savoir. Il faut le savoir. Alors, Marianne, tous les parcs que tu as pu faire avec ton père depuis ton enfance, quel est celui qui t'a marqué?
Je pense le Mont Sutton, parce qu'il est comme, il est vraiment dur, mais après on a vraiment la satisfaction d'avoir fait.
Qu'est-ce qui est rendu et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi c'est resté pour toi? C'est ton coup de cœur.
Ouais, mais c'est les escaliers à la fin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'escaliers à monter.
C'est jamais allé, vraiment, voilà. Peut-être que ça a quand même poussé à faire ce déplacement avant que l'hiver n'arrive. Et puis, c'est pas loin, de façon, de Montréal.
Non, c'est comme 1h30.
1h30, comme ça se fait facilement.
Oui, et puis c'est ça. Puis ça se trouve à pas être tellement loin de où est-ce que j'avais parlé avec la randonnée en kayak.
Oui.
De 12 km. Alors, on peut faire un séjour, aller faire le parc du Mont Sutton, aller faire le kayak.
Oui, oui, oui. Alors, s'il y a un parc à recommander, à conseiller à quelqu'un, c'est le Mont Sutton dont tu viens de parler?
Ouais.
Wow. OK. Tu vois? Et toi, Stéphane, si je te demande tout ce que tu as déconnu, tout ce que tu as parcouru, là, toi, quel est ton coup de cœur?
Je dois avouer qu'on l'a fait cette année, le Mont Sutton.
Oui.
Je ne l'avais pas assez exploré, disons, pour nécessairement faire une chronique dessus et tout ça.
OK.
Mais c'est définitivement un endroit où est-ce que je veux retourner, puis qu'on puisse le passer... Plus de temps.
Plus de temps, oui, à le faire. Pour découvrir le parc de en haut, le mont de A à Z, quoi.
Oui, c'est
voilà,
ça.
On va aller en profondeur.
Parce qu'il est vraiment grand, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On a fait un sentier.
Oui.
Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus.
Il y a beaucoup de sentiers, il y a beaucoup plus à découvrir. Ah, je te laisse continuer, là, concernant le...
Oui, pour la tarification, c'est un parc, la CEPAC. Alors, c'est 9 $ pour les adultes et c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Il y a aussi la carte annuelle à 45 $. Ou est-ce qu'on n'a pas besoin de réserver? Parce que si on achète un accès quotidien, on a besoin de réserver. Il y a la carte annuelle pour tous les parcs du réseau.
Quand on a la carte annuelle, on n'a pas besoin de réserver.
C'est ça.
OK.
Par contre, si on veut réserver pour le stationnement de la plage, même si on a la carte annuelle, il faut quand même réserver en ligne pour le stationnement de la plage.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont.
Oui. Et même quand on veut faire, disons, comme le Mont Chauve, on est stationné beaucoup plus près du début du sentier si on est au stationnement de la plage.
Okay.
Alors que sinon, on s'en va stationner quand même à
quelques kilomètres. À une certaine distance, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça. Comme pour les autres parcs de la CEPAC, en tout cas, la plupart, les chiens sont en laisse, mais et ils peuvent aller à certains endroits. C'est toujours bien de vérifier sur le site. Le site, c'est www.cepac.com/PQ/MOR.
Ils ne sont pas autorisés par tous les chiens?
Non, à moins que ce soit des chiens guides ou d'assistance. À ce moment-là, ils sont autorisés par
tous. Là, c'est autre chose.
Oui.
Ouais, parce que ces gens ont besoin de ces chiens pour se déplacer.
Exactement.
Voilà. et la bouffe, la restauration.
Oui. Ouais. Là, c'est sûr que c'est un bel endroit pour ça. Il y a le bistrot 4 saisons qui est au pied du Mont Orford, qui se trouve être dans l'espace 4 saisons, qui est un complexe hôtelier. Il y a aussi, nous, presque à chaque fois qu'on est allé, on a habité au manoir des Sables, qui est un très beau manoir. C'est beaucoup fréquenté par les golfeurs. J'en suis pas un, mais j'aime beaucoup l'endroit. Il y a un très bon restaurant, les jardins. Où est-ce qu'il va avoir de la cuisine? Il va avoir beaucoup de produits locaux, la truite fumée, le lapin. Alors, c'est quand même un très bel endroit aussi.
On a bien gâté, quoi.
Voilà.
Ça ne doit pas coûter cher, je ne pense pas. C'est des plats comme dans les restaurants normaux, quoi.
On s'entend que ça reste des restaurants d'hôtel aussi, souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que la qualité est là aussi. Alors, c'est...
Miam.
Exactement.
OK, Marianne, avant de terminer avec vous deux, au fait, est-ce qu'il t'est arrivé quelquefois de dire à ton père, « Non, je n'ai plus envie de randonner. » Ou bien tu es... Quand chaque fois qu'il te parle d'un nouveau ou d'une nouvelle randonnée, tu es toujours excité à aller avec lui?
Il y a des fois que ça ne me tente pas. Ça me tente moins. Je suis plus fatiguée.
Comment il réagit?
Correct,
il va se
ouais.
et tes frères, ils sont pas intéressés vraiment, ils sont dans leur vie à eux, dans leur bulle à eux, quoi.
Ben mes frères ils allaient, ils aiment ça, mais ils vont moins.
Voilà, toi tu as beaucoup plus de, voilà, je comprends, chacun ses trucs, hein. Chacun ses choses.
Ils sont plus vieux aussi,
ils sont plus
maintenant
âgés.
Mais j'ai quand même fait une randonnée, vois-tu, avec Simon, son frère, au Mont-Saint-Grégoire, puis ça avait été vraiment intéressant.
Pour la dernière minute, merci. Pour la dernière minute qui nous reste, pourquoi tu conseilles ça aux gens?
Parce que c'est quand même assez près de Montréal. C'est une grande diversité de sentiers. Il y en a pour tous les goûts. Les plages, surtout présentement, dans ces temps-ci, c'est très apprécié d'aller dans une belle grande plage comme ça.
Oui.
Et la beauté des paysages, la région, c'est vraiment, vraiment... L'Estrie, c'est beau.
C'est bien,
c'est
pour
à couper le souffle.
Pour les yeux, c'est à couper le souffle.
Oui.
Merci. Et toi aussi, merci pour ta première. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière de détour estival.
Oui.
Allez, merci à vous deux.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Oyez, mes amis, cette petite comptine sans prétention. Je suis content, je suis content, je suis content aujourd'hui.
Il est content, il est content. Il est content aujourd'hui.
C'est vrai. Je prends mon temps, je prends mon temps, je prends mon temps aujourd'hui.
Il prend son temps, il prend son temps, il prend son temps aujourd'hui.
Et je me détends, je me détends, je me détends aujourd'hui.
Il se détend, il se détend, il se détend aujourd'hui.
Et je suis content, je suis content. Je suis content aujourd'hui.
Il est content, il est content, il est content aujourd'hui.
Mais oui. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde est content aujourd'hui. Évidemment. Eh bien, dans ce cas-là, il faut le dire. Tous ensemble, allons-y.
On est content, on est content, on est content aujourd'hui. On prend son temps, on prend son temps. Et on se détend, on se détend, on se détend aujourd'hui. On est content, on est content, on est content aujourd'hui.
Voilà.
planque. Ouais, je suis content. Je suis content. Voilà. Alors, on parlait de football rapidement parce que soccer, oui. En Écosse, il y a des supporters de Rangers de Glasgow qui sont bannis à vie pour des propos racistes. Ils n'ont plus le droit de mettre pied dans un stade de football, de soccer. C'est fini, à vie. On n'a pas dit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. À vie. À vie. Donc, c'est un exemple à suivre par les autres. Par les autres équipes de l'Europe et du monde entier. Bien, maintenant, les Glasgow de Rangers ont sanctionné plusieurs de leurs supporters après des propos à caractère raciste diffusés dans une vidéo à l'encontre du joueur japonais Kyogo Furuhashi, joueur du Celtic de Glasgow. Alors là, ça passe pas. Ils se sont dit assez, c'est assez. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas vous laisser toujours s'en prendre aux gens qui ne vous ressemblent pas ici dans les stades, que ce soit des Asiatiques, des Noirs, des Rouges ou bien je ne sais quoi. C'est fini et c'est fini à vie. On ne veut plus vous voir dans nos stades. Point fini. Voilà. Donc, ils ont frappé fort. Ils ont frappé fort. Je pense que les autres équipes européennes vont suivre l'exemple parce qu'il y a trop de propos racistes ces derniers temps en Europe dans les stades. Voilà, ça s'est déjà passé, ce club, le Glasgow de Rangers, ont dit, oui, ok, c'est une minorité, mais ils se sont rendus compte que ça prend de l'ampleur, c'est une manière de dire stop, ça suffit, ça a des limites, le football, le soccer n'a pas besoin de ça, restez chez vous, point c'est tout, vous n'avez plus votre place dans les stades, je leur dis bravo, hein. Voilà, c'est fini ça, c'est fini pour eux. Ils n'ont qu'à rester devant leur télévision, même d'ailleurs si on pouvait leur empêcher même de voir des matchs de soccer à la télé, hein, ça devait pas de couper. Boris me dit de couper les accès internet. Alors, oui, qu'ils ne puissent même pas suivre les matchs en direct, quoi. Voilà, tu as raison. Voilà. Alors, bravo aux dirigeants du club Rangers de Glasgow, voilà, pour d'avoir banni ces gens à vie. Je dis bien à vie. Voilà, c'est bien pour eux comme ça. On termine en musique avec Raphaël dénommé Gambling Man.
Hey girl, I'm a gambling man, 'cause I've been on you. You bet on me.
dénommé Gambling Man. Voilà, pour terminer cette histoire du racisme à propos à l'égard du joueur du Celtic Glasgow, le japonais Kyogo Furuhashi, c'est une vidéo qui avait été publiée d'ailleurs. Et ces gens, ils ont été traqués, ils ont été reconnus tous. C'était pas à l'intérieur du stade. Donc, c'est la suite de la vidéo. C'est pour dire attention à ce que vous faites derrière votre ordinateur avec le petit clavier. C'est très important. On peut vous tracer, vous prendre. Voilà, c'est comme ça. Restez à l'écoute. On vous revient tout de suite avec notre invité, Michel Defont, qui va nous parler des filles du roi, des pionnières de la seigneurie de Repentigny. Allez, à tout de suite.
Et les dieux sont ravis.
Voilà l'été,
voilà l'été,
encore l'été,
encore l'été,
toujours l'été,
toujours l'été,
encore l'été.
Et Détour Estival avec Fulgence Blas.
Sachant que tout Indien arbore les cicatrices de l'air. C'est du froid qui déchire autant que celle de la chaleur.
Depuis Cloutier, bouche cousue. Alors, notre invité déjà avec nous, Michel Defont, une grande dame qui est derrière le troisième roman. Oui, attendez, je viens. Les filles du roi, pionnière de la seigneurie de Repentigny. Est-ce que je peux dire que c'est une personne obsédée par l'histoire? Elle nous le dira, parce que c'est pas le premier essai, c'est pas le premier recueil, c'est le troisième, si je ne me trompe pas. Société d'histoire des filles du roi, les filles du roi, pionnières de la seigneurie de Repentigny. Bonjour Michel Desfonds.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Et vous?
Le merci est à vous. Le merci est à vous d'avoir le temps de venir nous parler de ce tout dernier qui vient, que vous venez de mettre sur le marché. Voilà pour nous à la disposition du grand public. Les filles du roi, pionnières de la seigneurie de Repentigny, après la sortie, parce qu'il y a deux autres qui sont déjà sortis auparavant. On va parler de ça un peu plus tard. Alors, est-ce que je peux parler d'obsession? Quelle est cette obsession pour l'histoire?
Ah, je sais pas si on peut dire obsession, mais disons, c'est
ou bien
un
cet
intérêt...
Ou bien cet amour. Ou
ah,
quel est cet intérêt?
Ça,
voilà.
Oui. C'est un intérêt très grand que je partage avec les autres collègues et les autres femmes ou les autres hommes qui font partie de notre société.
Oui.
C'est pour faire connaître et reconnaître ces femmes qui sont inconnues, oubliées par l'histoire. Ou mal connues, puis qu'on veut attirer la lumière sur elles, faire pleine lumière sur elles, parce que on n'en parle à peu près pas dans les livres d'histoire, en tout cas pour les gens de mon âge et d'autres. Là.
Oui.
Voilà. Fait qu'on a pensé former une société. La société existe depuis 2010.
Oui.
Dès 2012, ils ont commencé à mettre sur pied des commémorations parce qu'ils se sont rendus compte qu'en 2013, on pouvait fêter le 350e anniversaire de l'arrivée du premier contingent de filles du roi en 1663.
Oui.
Parce que les filles du roi, c'est des filles qui sont venues, en fait, sauver la colonie, si je peux me permettre. C'est des filles qui sont arrivées à un moment critique de l'histoire de la Nouvelle-France.
Oui.
Il y avait peu de... c'était peu peuplé parce que c'était administré par des compagnies privées qui devaient peupler, qui n'amenaient pas de colons. Et finalement, les gens d'ici avaient envoyé Pierre Boucher voir le roi, puis qui a accepté de mettre sur pied un programme de peuplement. C'est en 1663. C'est une année charnière un peu dans l'histoire de la Nouvelle-France aussi.
Oui.
C'est l'année de l'administration royale. Louis XIV qui a décidé de prendre en charge cette colonie-là, et aussi qui a promis à Pierre Boucher d'envoyer des soldats, le régiment de Carignan-Salière, pour venir mater les Iroquois, parce que il y avait beaucoup de guerres et beaucoup de gens qui mouraient là, sous les flèches ou les couteaux des Iroquois, puis on pouvait plus finalement même travailler la terre, c'était très très difficile. Alors, Pierre Boucher a une cause et ce programme de peuplement-là avec des filles à marier, parce que le nom de fille du roi a été donné par Marguerite Bourgeois, mais 20 ans plus tard, alors qu'elle faisait ses mémoires, puis elle a écrit je suis allée quérir au quai les filles du roi. Parce que c'est des femmes qui venaient aux frais du roi, dont les frais de transport et l'établissement étaient payés par le roi. Parce qu'il y avait déjà eu des femmes qui étaient venues avant, qui sont très militantes aussi, là, mais elles étaient peu nombreuses, puis elles venaient soit en famille, avec leur mari ou leur père, ou etc., ou avec les communautés religieuses, ou comme employées. Mm-hmm. Alors que les filles du roi venaient, quittaient complètement le réseau qu'elles avaient en France pour venir s'établir ici, choisir pays et mari.
Mais comment le roi mettait la main sur ces filles-là pour les envoyer ici?
Comment il mettait la main? En fait, c'est qu'il y avait un système de recrutement.
Oui.
Il payait, je pense qu'il y avait 100 livres, une partie qui allait au recruteur, une partie qui allait au capitaine du navire qui embarquait ces filles-là. Puis une partie qui était réservée pour la dot des filles du roi. On a la preuve que des filles qui sont venues pendant 4 années, elles ont eu la dot, mais les autres, on ne le sait pas. Mais elles avaient de toute façon l'équivalent en biens une fois installées ici. On leur donnait, après qu'elles se soient mariées, là, des vivres pour et du matériel pour un an à peu près.
OK. Wow. Ah, c'est intéressant. Alors, vous avez tellement eu de différentes professions. Avant de terminer, en tant qu'avocate d'ailleurs, en droit du travail côté syndical, et c'est
oui.
à la retraite que vous, comme vous avez toujours aimé l'histoire, vous et quelques amis, vous êtes lancé dans ce... Moi, j'appelle ça une aventure, parce qu'on n'avait pas fini cette aventure, ce chemin-là. Ce n'est pas le dernier livre, là. Il y a d'autres qui vont sortir encore.
Oui, il y en a d'autres qui vont sortir. On est des deux livres en préparation.
Oui.
Un, c'est pour les villes de Varennes et de Verchères qui vont célébrer l'an prochain leur 350e anniversaire de fondation.
Oui.
Et aussi un sur la côte du Sud, dans la région de Québec, là, de Beaumont à Rivière-Ouelle.
Oui.
Et effectivement, c'est les gens qui les filles qui travaillent avec moi aussi, c'est un peu des féministes qui veulent faire connaître ces femmes-là, puis un peu qu'elles aient un peu de reconnaissance, de lumière, qu'un peu qu'on fasse la justice aussi pour elles. Là.
Oui,
c'est ça qui nous anime.
Ok, Michel, la rencontre avec Marie Royal et Gabriel Dussault, comment cette rencontre s'est faite?
Ah, ben c'est en 2012, alors que la société recrutait des femmes pour personnifier des filles du roi en vue d'aller en France sur les traces des premières arrivées en 1663. J'ai eu le grand bonheur de personnifier mon ancêtre du côté de la lignée paternelle là, qui s'appelait Marie-Madeleine de Chevrinville, Marie avec Isaac, l'ami des fonds, qui était sur ce bateau-là. Et Marie Royal était aussi de la partie. Elle avait son ancêtre, Catherine Moitier.
Oui.
Et Gabrielle Dussault, elle, c'était Catherine Fièvre. Et c'est le hasard qui a fait en sorte qu'on s'est réunis, qu'on s'est retrouvés parmi parce qu'on était les 36 femmes, plus toute une équipe avec nous pour aller en France sur les pas de ces femmes-là à Paris, d'où elles venaient. Là. Il y en avait quelques-unes qui venaient de Paris, de la Salpêtrière. On est allé aussi à Rouen, on est allé à Caen, on est allé bien sûr à La Rochelle. Et c'était très émouvant.
Oui. Je vous dis bravo, vous, à vos compères, là, ces deux autres femmes, ou bien toute l'équipe derrière cette société d'histoire des filles du roi. Je pense bien que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. On fait une pause musicale et puis on revient, on va continuer avec le nouveau livre.
Merci.
Wes Oberega, Long Way Home. Notre invité est toujours avec nous, Michel Desfonds, qui tient un projet avec ses amis, avec ses complices, un projet qu'elles ont créé ensemble, sa société d'histoire des filles du roi. D'ailleurs, c'était des filles à marier, c'est comme elle l'a dit, c'est Marguerite Bourgeois, 20 ans plus tard, qui les a nommées filles du roi. Moi, j'aime bien beaucoup plus les filles à marier ou bien que filles du roi. Bon, ben, c'est comme si c'était des possessions du roi. Bon, c'était une manière de peupler la Nouvelle-France, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Puis le nom filles du roi que Marguerite Bourgeois a donné, oui. On appelait aussi les enfants du roi, les enfants, les orphelins, un peu comme ici les orphelins du Plessis.
Oui.
Mais c'était les enfants du roi, ça voulait dire c'est des orphelins qui étaient comme à la charge de l'État, qui pouvaient être dans le temps, c'est des hôpitaux généraux en France.
Oui.
Puis c'est un peu pour cette... Ben, elle, Marguerite Bourgeois, c'est parce qu'elle allait les accueillir puis que les frais étaient payés par le roi.
OK.
Mais c'est en même temps un peu un lien avec le fait que c'était des femmes pauvres et orphelines pour la majorité qui arrivaient ici. Là.
Oui, oui.
Qui étaient
oui,
considérées
oui.
comme les filles du roi.
Oui. Et puisque le roi, selon le roi, en 1663, la population n'avait environ que 3500 personnes, alors que du côté anglophone, la population, les colonies anglaises atteignaient déjà les 50 000.
Oui, absolument. Même si les colonies anglaises avaient commencé à peu près à la même époque que Québec, en 1608, je pense que Plymouth, ça a commencé en 1607, mais déjà parce que c'était une autre façon de peupler, puis l'Angleterre était une île, puis il y avait beaucoup de leurs... des personnes qui résidaient là, qui voulaient s'en venir.
Oui.
Mais ça a fait en sorte que ça s'est développé beaucoup plus vite, là. Que même en 1685, par exemple, ils pouvaient avoir peut-être 11 000 personnes ici, puis ils étaient rendus plus que 200 000 de leur côté.
Oui.
Donc, c'était très important. Quand les filles du roi sont arrivées, quand on dit que c'était comme a été la clé de voûte là, du développement, parce que sinon la colonie n'aurait pas pu être viable.
Oui, donc c'est vrai.
C'est pour cette raison-là que le rapport est très... on peut l'illustrer là, comme ça, de cette façon-là.
Oui, et ces 761 filles ont donné naissance à plus de 4000 enfants.
Ah oui, je pense que plus que ça.
Plus
là,
que
bon,
ça.
C'est peut-être pas précis.
Oui.
Oui, ah oui, parce que
officiellement,
mais
officieusement, c'est plus que ça.
Ah oui, oui, c'est beaucoup plus que ça, même officiellement. Puis c'est qu'au bout de 20 ans après l'arrivée du premier bateau, là, la population avait triplé. Donc c'est pour ça que ça pouvait devenir viable.
Oui.
Parce que c'était, puis que là, ça commençait à se développer. Puis oui. qu'on a vu les Français de l'époque s'en aller vers l'ouest. Il y a eu la paix pendant une quinzaine d'années, jusqu'en 1685 à peu près.
Oui.
Là, la guerre a repris entre la France et l'Angleterre, donc les Iroquois sont venus attaquer. Mmh. Mais finalement, il y a eu les 4 ans avant 1700,
oui.
Il y a eu des tentatives de négociation pour conclure une paix, puis pour différentes raisons.
Oui.
On parle de la grande paix de Montréal de 1701, là, qui a permis aussi de s'en aller vers les Grands Lacs et vers tout le pays des Illinois qui était au nord du Mississippi, puis toute la Louisiane, là, tout le long du Mississippi. Et tout ce territoire-là était
considéré. Oui, la Louisiane qui à l'époque appartenait à la France d'ailleurs.
Oui, oui, c'est comme ça que la France est arrivée là.
Oui, oui. Oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous avez pu faire retracer même, comment dirais-je, les liens les origines de ces filles du roi là jusqu'à leur famille, jusqu'à d'où, de quelle famille, de quel milieu, de quelle ville, tout ça, vous avez pu retracer aussi il y a des études qui ont été faites?
Oui, ben pour les filles du roi, un incontournable, c'est l'étude, la thèse de doctorat de Yves Landry,
oui.
En 1992, qui parle de orphelines en France, pionnières au Canada, les filles du roi au 17e siècle,
oui.
Qui rapporte un peu toutes les conditions de vie en France à cette époque-là.
Oui.
Puis on sait que c'était très pauvre, etc. Et je parlais de ça. Puis il y a d'autres aussi. Le Québec, c'est le paradis des généalogistes. Parce qu'en fait, nos biographies, ça se situe entre généalogie puis histoire.
Oui.
Et ici, on a tous les accès à beaucoup de matériel de l'époque, que ce soit les actes de baptême des enfants, le mariage, sépulture, ainsi que les contrats de notaire, c'est les archives, etc. On
oui,
est très, très, très chanceux de ce côté-là. Oui, on peut retracer la vie de ces femmes-là ici. Et aussi, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie a mis sur pied ce qu'on appelle le fichier origine. C'est une association aussi avec des gens en France qui travaillent là-bas sur pour trouver les archives reliées à ces femmes-là.
Oui.
Donc, c'est pour l'ensemble des... pas juste pour les filles du roi, là, c'est pour l'ensemble des ancêtres français qui sont venus ici.
Oui.
En tapant sur Google, fichier origine, puis le nom, on peut savoir si cette personne-là est venue, puis c'est quoi sa famille là-bas. Puis avoir accès. Oui, absolument.
Okay.
Puis même on peut maintenant par Internet avoir accès des fois au registre des villes. C'est sûr qu'avec le temps, il y en a qui ont pris les feux.
Ils ont fait aussi des mises à jour qui nous permettent d'aller nous renseigner directement sur les... Là, c'est le bon côté de l'Internet, ça. Michel, pour terminer, il nous reste encore une minute. L'histoire de ces filles-là qui vous fascinent, quels sont les projets à venir, rapidement?
Les projets à venir, ce qu'on vit, c'est pour 2023.
Oui.
Et on va fêter le 350e anniversaire du dernier contingent qui est arrivé ici.
Oui.
Et on voudrait, on a des projets de toutes sortes de choses. On voudrait faire une pièce de théâtre, des concerts. On a une chorale qui a été mise sur pied pour ça, qu'on va peut-être faire des concerts sur la musique au temps des Filles du Roi.
Il va falloir revenir nous parler de ça, Michel.
Ah, ben avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Avec plaisir. Wow. Bravo à vous, à vos collègues dans cette équipe-là, Filles du Roi, la Société des Filles du Roi. Non, mais c'est fascinant. Je vais aller chercher les deux autres là pour que j'aie toute la collection. Voilà.
Ah ben merci beaucoup.
Voilà, merci à vous et au plaisir de vous réentendre.
Merci, monsieur. Bonjour.
Merci. Au revoir.
Almost over, and there's a space in the world for another lonely traveler. The way it used to be, riding shotgun down the highway, keeping a mindful eye on the mountains where they touch the sky. Care where you're going to, and I don't care where you've been. Can you be here now? Can you be here now? Love's not an accident, but it can change like the weather, and you got no place to hide. The tension in your mind, and you'd been feeling better, but last night you parked by the old house on the corner where you used to reside. With everything that you're going through, shape you're in, can you be here now? Can you be here now? Can you be here now at the border of the end? Now where there's nothing to defend.
traveler. I don't care where you're going to, and I don't care where you've been. Can you be here now? Can you be here now? Can you be here now? Can you be here now?
Come around. Voilà. Belle mélodie. Voilà, on a fini cette émission d'aujourd'hui comme ça. Je dis merci à la famille Baudry. Je dis bien Stéphane et sa fille Marianne qui sont venus parler du parc national du Mont Orford, bien sûr. Et à notre invité Michel Desfonds, qui est l'une des responsables de la Société d'histoire des filles du roi. Pour le livre Les filles du roi, pionnière de la seigneurie de Rue Pontigny. Vous allez la réentrer ici sur les ondes de Canal M. Merci à toi, Maurice Bolduc, ta complicité. Et puis merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. On se retrouve, voilà, bien sûr, demain, sur les ondes de Canal M. Prenez soin de vos minutes et bonne soirée. Ciao.
Bah.